Amen, Jésus. Alléluia. Nous ouvrirons l'Écriture sainte dans le livre des Proverbes et nous lirons ensemble au chapitre 3. Au chapitre 3 et au verset 7. Proverbes, chapitre 3, verset 7. Et là, il est écrit « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Je relis. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Amen. Vous savez, le livre des Proverbes est rempli de sagesse. Et je dirais que l'acquisition, le développement de la véritable sagesse, c'est le premier, le principal des sujets qui y sont contenus. Il y a beaucoup de sujets dont il est parlé dans ce livre-là, mais ça, c'est le fondamental. Nous savons que la sagesse, c'est quelque chose qui doit toucher à tous les domaines de notre existence. Et il y a un domaine qui, évidemment, a beaucoup d'importance, c'est celui de la santé, qui est lié aussi au fait de ce qu'il faut pour avoir une longue vie et une longue vie qui soit bonne, parce que sert-il d'avoir une longue vie si elle est mauvaise, hein? Donc d'ailleurs c'est un médecin qui disait « il vaut mieux ajouter de la vie aux années que des années à la vie ». Hein, vous voyez ce que veut dire, il vaut mieux ajouter de la vie aux années que des années à la vie. Voilà. Et dans le livre des Proverbes, il nous dit des choses importantes qu'il faut connaître et appliquer au sujet de la santé que Dieu donne et d'une longue vie bénie par Dieu. Et nous pourrons voir successivement plusieurs de ces points importants qui sont donnés, qui sont décrits, qui sont tirés de ce livre des Proverbes. Ainsi pourrons-nous voir, par exemple, l'importance de réaliser la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Ça concerne notre santé et notre vie physique et spirituelle. Après, vous avez une deuxième chose qui est importante, qui revient dans ce livre, l'importance de croire que par notre attitude, nous pouvons provoquer le rallongement de notre vie et la bénédiction. Ça aussi, c'est un grand point. Ensuite, troisième chose qui est importante, sur laquelle il est beaucoup revenu, c'est l'importance de la parole de Dieu, évidemment, d'avoir une bonne attitude à l'égard de l'Écriture sainte, et ça concerne aussi au premier chef notre santé. Et puis en quatrième, l'importance de l'annonce du message de la bonne nouvelle. Hein, donc là aussi, et des messagers qui le font, et ceux qui le font, et bien là aussi, il y a des implications remarquables sur la santé et une vie bénie. Puis en cinquième, l'importance encore de réaliser que l'âme et l'esprit sont étroitement liés avec le corps, d'une part, et sont très en lien avec cette question-là. La question de la santé, ça concerne de très près notre âme et notre esprit. Et puis en sixième, l'importance aussi de la crainte de Dieu. Voilà encore un grand sujet qu'on trouve dans ce livre. Cette crainte de Dieu qui amène à rejeter le péché avec, là encore, ses effets positifs sur l'état et la préservation de notre corps. Enfin, en septième, l'importance de la fidélité. Ça, c'est notre dernier grand point concernant une bonne santé qui revient aussi dans ce livre-là. Alors, reprenons chacune de ces choses pour les approfondir un peu. Déjà, en premier, avons-nous dit l'importance de réaliser la volonté de Dieu. Réaliser la volonté de Dieu, c'est très important, ça concerne notre santé, tant physique que spirituelle. Qu'ils sont nombreux, les passages de la parole de Dieu qui nous rappellent et nous confirment cette vérité si souvent répétée que Dieu veut guérir, que Dieu veut agir. En commençant par notre passage de départ, où le Seigneur nous donne les conseils qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé. Hein? Mais vous avez d'autres passages, quand il a dit par exemple « Il envoya sa parole et les guérit ». Voyez-vous ? Ou encore, « Mais pour vous se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Ou encore, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Et nous avons évidemment l'exemple majeur du Seigneur guérissant les malades en même temps qu'il annonçait la parole de Dieu et l'ordre qu'il a donné à ses disciples, en même temps qu'il les envoyait porter la bonne nouvelle, c'était aussi guérissez les malades. On le voit. Et tout ce qui nous est dit concernant la guérison, là aussi, la guérison divine, dans le livre des Actes des Apôtres, on le voit, ces exemples qui sont là, qui accompagnent la prédication de l'Évangile et l'avancement du royaume de Dieu. Et tant d'autres passages précieux de la parole de Dieu qui nous confirment et nous reconfirment cette volonté de guérison qui est la sienne. Donc ça, c'est important. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, hein, quand il est dit dans le psaume 107, au verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. » Il envoya sa parole et les guérit. Dieu ne nous a pas donné ce livre-là pour orner simplement notre bibliothèque. Il nous a offert les moyens de changer notre vie. À travers sa parole, il a promis de nous guérir. Et pourquoi donc tant de chrétiens négligent-ils de lire la parole de Dieu chaque jour ? C'est véritablement un problème. L'admirer parce qu'elle est une initiative divine, ça ne nous permet pas de découvrir l'héritage que Dieu a pour nous. C'est l'histoire donc réelle qui s'est réellement passée de cette femme âgée à qui un chrétien est venu rendre visite un jour. Et elle vivait vraiment pauvrement dans une maison délabrée. 20 ans plus tôt, elle avait travaillé comme gouvernante d'une des femmes les plus riches de la région, mais à la mort de celle-ci, elle avait perdu son emploi, elle avait perdu son logement et n'avait pu se payer que cette vieille maison en piteux état. Et donc, le visiteur, en partant, remarque un document qui est accroché au mur et après y avoir jeté un coup d'œil, il demande à la vieille dame s'il peut l'emporter pour un jour ou deux. Alors elle répond, bien sûr, mais ne le perdez pas, mais ramenez-le-moi dès que possible, parce que bien que je ne puisse pas lire, j'y tiens beaucoup, parce que c'est la seule chose que m'a donnée ma patronne avant de mourir, et ça me rappelle des jours heureux en sa compagnie. N'oubliez pas de me le rapporter. Voilà, et le visiteur l'emporte. Et le fait examiner par un expert, et c'était un testament en bonne et due forme, écrit par la riche veuve, donc avant son décès, dans lequel elle léguait à son employé une somme considérable. Et celle-ci aurait pu avoir une maison, une belle maison, et même se payer les services de personnel avec cela, mais son ignorance l'avait emprisonnée dans sa pauvreté. Cette pauvreté qui était la sienne depuis tant d'années. Et la parole de Dieu, c'est une lampe sur notre sentier. C'est marqué dans le psaume 119 au verset 105. Elle peut nous guider à travers les méandres de l'existence à condition que nous laissions éclairer notre route. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc et ça, c'est primordial. Et il est important que nous puissions saisir cette parole et véritablement nous y attacher. Amen. La volonté de Dieu, donc, c'est que nous soyons guéris et en santé, afin que nous puissions faire sa volonté et que nous puissions avoir cette vie longue, cette vie remplie, suffisamment longue pour accomplir le plan de bonnes œuvres qu'il a préparé pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Ensuite, notre deuxième grand point, avons-nous vu dans ce livre des Proverbes, c'est l'importance de croire que par notre attitude, nous pouvons provoquer le rallongement de notre vie et la bénédiction. Il y a des gens qui disent que Dieu a tout prévu d'avance, que ce n'est pas possible que rien ne puisse changer. Ils appellent ça la prédestination absolue. Mais l'Écriture ne dit pas cela. Il y a une prédestination, c'est vrai. Dieu a préparé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés déjà. Déjà, c'est déjà une preuve de la prédestination au salut qu'il veut pour tous. Mais ensuite, Dieu a un plan pour chacune et chacun d'entre nous. Et ce plan, il veut le réaliser. On peut y entrer ou ne pas y entrer. Ça, c'est notre choix. Donc, il veut le réaliser. Et non seulement cela, mais il peut nous donner plus encore que ce qui avait été prévu au départ. Il faut quand même savoir cela. Dans le chapitre 3, verset 16, il est écrit, dans sa droite, c'est-à-dire dans la droite de la sagesse, est une longue vie. Ceux qui ont cette sagesse divine ont une promesse de longue vie. Nous voyons donc que cette sagesse est bien préférable aux richesses, à l'or et à l'argent. Et c'est pour cela que nous sommes invités dans ce livre à rechercher cette sagesse divine plus que l'or et que l'argent. Parce que non seulement elle va nous donner une longue vie, mais elle va être pour nous le moyen d'accéder à la connaissance de Dieu, à la communion avec Dieu, ce qui est le plus important. Parce qu'à ce moment-là, cette longue vie sera bénie. Et après elle, il y aura le salut pour l'éternité. Et puis, dans le chapitre 4, au verset 10, regardez ce qui est marqué. « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. » Et les années de ta vie se multiplieront. Voilà encore une belle promesse de rallongement de vie. Et le moyen nous est présenté par le Seigneur lui-même, qui s'adresse à nous, ici, comme à ses enfants, comme à ses fils, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu, de l'écouter avec attention, respect, ensuite de la recevoir avec douceur et respect, parce qu'elle est puissante pour sauver nos âmes et nous apporter toutes sortes de choses précieuses et bénies. Et c'est pour cela, recevez la parole de Dieu aujourd'hui comme la chose la plus excellente que vous puissiez recevoir dans votre vie entière. C'est pour ça, c'est ainsi qu'elle vous sera, qu'elle nous sera merveilleusement bénéficiaire. Amen. Hein? Là encore, vous avez un serviteur de Dieu du 19e siècle, le pasteur Liddon, donc, écrivait la chose suivante. C'est sur la base de Matthieu 24, verset 35, lorsque le Seigneur Jésus dit, ce qu'il dit vers la fin du discours du Mont des Oliviers, enfin, vers la fin de la première partie du discours du Mont des Oliviers, il dit « Mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. » Voilà. Et voilà ce que dit ce serviteur de Dieu, ce qu'il a écrit. « Mes paroles ne passeront point. Écrivez ces paroles, chers frères, sur la page de garde de vos Nouveaux Testaments, pour que, quand vous ouvrez ce livre béni, elle vous rappelle ce que vous êtes en train de faire. Vous vous approchez de l'enseignant par excellence, dont l'autorité n'est pas altérée par le temps qui passe. Écrivez-les, pères et mères, mais surtout vous, qui êtes des mamans chrétiennes, pour que vous n'oubliez jamais d'enseigner à vos enfants, plus soigneusement et complètement que n'importe quel commandement pour réussir dans les choses terrestres. Donc, enseignez à vos enfants ces mots qui sont plus précieux que jamais à l'heure de la mort et qui sont triomphalement justifiés au-delà du voile. Écrivez-les, je vous prie, dans vos livres et dans vos cœurs, vous les grands comme les humbles, les intellectuels comme les illettrés, les anciens comme les jeunes, pour qu'ils puissent vous secourir quand dure le jour de l'épreuve, pour établir vos pieds sur le roc et vous conduire dans toutes vos voies. Au matin, ne quittez jamais votre chambre sans vous demander « Que disent ces paroles bénies ? Que dit une seule de ces paroles pour ma direction, pour mon soutien, pour ma protection, pour ma mise en garde dans l'œuvre de ce jour ?» À la suite, ne vous couchez jamais sans avoir amené tout ce qui a été pensé et dit et fait pour être jugé par la parole de cet enseignant divin, de manière à ce que vous puissiez demander son pardon là où vous vous êtes écarté ou le remercier pour sa grâce quand vous avez été rendu capable de vaincre. Faire de ces paroles la règle de vie et de pensée doit être absolument l'effort de tout véritable chrétien. Que Dieu nous donne de le faire maintenant, autant que nous le pouvons, et ainsi nous réaliserons à notre dernière heure, par expérience personnelle, que ces paroles qui ne passeront point sont aussi les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà. Et si j'avance maintenant, toujours en revenant dans le chapitre 10 au verset 27 du livre des Proverbes, je lis la chose suivante. « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Donc ça veut dire que nos jours peuvent être augmentés ou qu'ils peuvent être abrégés. Et ça dépend de qui ? Ça dépend de nous. Hein ? La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Le méchant prouve par ses actions qu'il n'a pas la crainte de Dieu, qui est ce garde-fou absolument indispensable au salut. Il nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et cette crainte de Dieu nous fera redouter de pécher. Et plus encore, je dirais, de rester dans un état de péché, de rester dans un état de désobéissance à la parole de Dieu, de résistance à la volonté de Dieu, parce que nous savons que notre Dieu est aussi un feu dévorant, et ainsi ceux qui ont la crainte de Dieu sont gardés en vie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils vivent en étant conscients qu'ils sont sous le regard de Dieu, et qu'ils veulent marcher de manière à ce que ce regard puisse les approuver. Et puis, dans le chapitre 28 au verset 16, vous avez encore un passage qui va dans le même sens. « Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. » Vous savez, on reconnaît le véritable caractère d'un homme, non pas quand il est opprimé, mais quand il est en possibilité d'opprimer. Voyez-vous ? non pas quand il est obligé de se soumettre, mais quand il peut avoir de l'autorité. Là, on commence à voir son vrai caractère. Hein, donc, et nous sommes tous, à un moment ou à un autre, des princes pour quelqu'un. Hein, c'est-à-dire que nous pouvons, à un moment ou à un autre, avoir peut-être quelque chose qui ressemble à un pouvoir sur quelqu'un. Du moins, ça peut nous apparaître comme cela. Alors, gardons-nous d'opprimer à ce moment-là. Gardons-nous en particulier de la cupidité, de l'avarice, du désir insensé de posséder qui nous pousserait à commettre donc des actes injustes, à manquer de générosité là où nous avons la possibilité et le devoir d'être généreux. Il nous est dit, rappelez-vous, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés dans bien des tourments. Alors, préservons-nous donc, écartons-nous de la cupidité. Et non seulement cela, mais dit, comme dit notre passage, soyons ses ennemis. Soyons ses ennemis, opposons-nous à elle, parce que c'est une idole majeure, et Dieu ne supporte pas les idoles, et de cette façon encore, notre vie sera bénie devant sa face. Amen. Je poursuis mon troisième grand point maintenant, c'est l'importance de la parole de Dieu. En ce qui concerne notre santé, l'importance de la parole de Dieu, d'avoir une bonne attitude à son égard, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, rappelez-vous, le chapitre 4, verset 10, « Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. » Plus loin dans le même chapitre, nous lisons verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est formidable comme passage. Et voyez-vous ce qui est dit à ce sujet, ça, et ce sujet. Il est dit déjà en premier, écoute, prête l'oreille. Prête l'oreille, c'est-à-dire prête l'oreille à la parole de Dieu prêchée. Hein, aux discours qui sont faits concernant la parole, y être attentif, donc c'est déjà un moyen majeur d'intégrer cette parole de Dieu qui nous sera tant bénie. Et puis ensuite, il est dit autre chose, remarquez bien, il est dit de la garder près de ses yeux. Ça veut dire non seulement d'y prêter l'oreille, mais de la lire pour soi-même. Il est important de lire la parole de Dieu et de le faire jour par jour. C'est encore le moyen d'être béni par elle. Et après, remarquez bien, ça va plus loin parce qu'il est parlé de la garder dans le fond de son cœur. Vous pouvez lire 50 chapitres par jour, mais si ça glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard, ça ne sert pas à grand-chose. Hein ? On est bien d'accord. Il faut que cette parole puisse entrer dans le fond de notre cœur. C'est-à-dire que cette parole soit accompagnée de méditation, de prière, d'affection profonde pour les choses de Dieu. Et ça aussi, c'est un point majeur. Et vous avez vu la promesse. C'est la santé pour tout leur corps, tous les membres du corps, hein ? Tous les organes du corps. Eh bien, sont au bénéfice de cette promesse qui est contenue là. Amen. Hein? Gustav Ginman, qui était tailleur de pierre fine à Chicago, travaillait dans son atelier lorsque John Miok, cultivateur, est venu le trouver. Il a sorti de sa poche une pierre d'une belle couleur rouge, mais informe. Il l'a tendue à Ginman et lui a dit « Je voudrais que vous me polissiez cette pierre ». Alors les yeux du lapidaire se sont fixés sur cette pierre avec stupéfaction. Il dit « Où est-ce que vous avez trouvé ça ?» Alors l'autre a répondu « Mon père l'a trouvé en Hongrie, il y a une cinquantaine d'années, et il l'a gardée parce qu'il trouvait qu'elle avait une si jolie couleur. Quand je suis arrivé dans ce pays, en 1903, nous l'avions dans nos pauvres bagages, mes enfants en jouaient avec, et le plus jeune a fait ses dents dessus. Une nuit, j'ai rêvé que c'était un diamant de grande valeur, mais ce n'était pas un diamant, vu sa couleur rouge. » En effet, répondit Gilman, ce n'est pas un diamant, c'est un rubis qu'on appelle sang de pigeon. Il vaut environ 250 000 dollars. Donc aujourd'hui, ça vaudrait encore, je ne sais pas, peut-être, à l'époque c'était 250 000 dollars, ce serait l'équivalent d'aujourd'hui peut-être de 2 millions de dollars à peu près. Hein, voilà, pour vous donner une idée. Et Miok dut bien sûr s'appuyer sur quelque chose, tant son émotion était forte. Cette pierre a été taillée donc et en un parfait rubis pesant 24 carats et on pense que c'est le plus gros rubis et le plus beau du monde. Et John Miok avait cultivé la terre pendant toute sa vie. Comme son père Michel, ils ont peiné, donc lutté pour nourrir leur famille parce qu'ils étaient des immigrants, ce n'était pas facile. Et pendant tout ce temps, ils possédaient ce rubis de grande valeur. Combien de familles chrétiennes même qui ont une Bible. Oui, qui ont plusieurs Bibles même peut-être, mais ne laissez pas dormir ce trésor dans la bibliothèque. De grâce. Hein. Dans le psaume 19, il est marqué « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne la force de vivre. Elle rend sage l'ignorant. Les paroles de l'Éternel sont justes, plus précieuses que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel des rayons. » Alléluia. Alléluia. Saisissons cela, frères et sœurs. Et puis j'avance encore. Et je m'aperçois que, en ce qui concerne la santé aussi, et le bon fonctionnement de notre corps, de notre vie, l'importance de l'annonce du message, de l'évangile, de la bonne nouvelle, et des messagers qui font cette annonce, ça c'est aussi quelque chose qui doit être mis en évidence. Dans le chapitre 13, au verset 17, nous lisons « Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. » Alléluia. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Qu'est-ce que c'est qu'un envoyé méchant ? D'après le contexte, eh bien, il s'agit de quelqu'un qui n'apporte pas fidèlement le message qui lui a été confié. Hein, donc, par paresse, par négligence, par opportunisme, par lâcheté, que sais-je, il change le message. Il en néglige des aspects, des points importants. Et c'est à cause de cela que ceux vers lesquels il est envoyé ne sont pas guéris ou ne sont pas sauvés comme Dieu, l'auteur du message, pourtant voudrait qu'il le soit. Et que de religions humaines, que de faux messages, que d'envoyés méchants qui ont trafiqué le message de la parole de Dieu et que d'hommes qui ne sont pas guéris et qui ne sont pas sauvés à cause de cela. C'est hélas une triste réalité, un triste constat que nous faisons. Mais que nous puissions être, nous, des messagers fidèles. Voilà ce qui est important, que la parole de Dieu dans notre bouche puisse être vérité, que nous ne puissions rien y ajouter, ne rien y retrancher, la transmettre fidèlement et ne pas oublier de la transmettre, pour que la guérison et la bénédiction puissent l'accompagner sans obstacle, suivant le désir de Dieu et sa volonté. Vous savez, la fidélité, c'est une grande chose. La fidélité, c'est quelque chose qui est lié de très près à la persévérance. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 36, il est marqué aussi « Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu ». Nous en avons besoin, c'est vrai. Trois mots pourraient résumer la vie de Moïse. C'est dans Hébreux chapitre 11, au verset 27, « Il tint ferme ». Il tint ferme. Vous savez, la réussite dans l'existence, ça passe pratiquement toujours par la case difficulté. Hein ? Le progrès, ça passe aussi par la case échec. Échecs desquels on a tiré des leçons, échecs qu'on a pu surmonter. La maturité, ça passe par la case adversité. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Hein. N'oublions pas que l'étymologie latine du mot persévérance, perseverare, vous savez ce que ça veut dire, perseverare, hein. Ça veut dire per, ça veut dire à travers, severare, c'est-à-dire à travers des choses sévères. Hein. À travers des difficultés. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est là que ça revient. Donc, sans difficulté, persévérance et fidélité ne veulent rien dire. Hein. Il y a aussi un dicton qui existe. Une mer d'huile n'a jamais produit de marin aguerri. Hein. Une mer calme, sans difficulté, n'a jamais produit de marin formé et solide. Vous savez, notre civilisation aujourd'hui, c'est celle du micro-ondes, on le voit. On veut tout de suite. Hein. On n'a plus la patience de préparer des recettes de cuisine qui nécessitent des heures de cuisson, par exemple. Hein. Bon, ce n'est pas grave, hein, mais c'est un état d'esprit. Et pour accomplir la volonté de Dieu, lui plaire, eh bien, il faut malgré tout qu'on développe l'art de la persévérance, frères et sœurs. L'art de la fidélité. Le Seigneur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. » Mais ça veut dire que quand même qu'il faut y demeurer dans sa parole. Pour connaître la vérité. La vérité, ça a un prix. Nous avons besoin de mettre notre confiance dans le Seigneur, parce que c'est lui qui est le rocher des siècles, le solide fondement de notre foi. C'est ça qui va nous donner d'être fidèles. C'est ça qui va nous permettre de tenir les uns les autres par la grâce et la puissance de notre Dieu. Amen. J'avance un peu, et dans le chapitre 15, au verset 30, je trouve un autre verset, un autre passage qui va dans le même sens. « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. » Une bonne nouvelle fortifie les membres. D'une manière générale, c'est quelque chose de vrai. Hein. Lorsqu'on vous a annoncé une bonne nouvelle, hein, souvent c'est quelque chose qui vous a donner du punch, hein, ça vous a fait du bien, ça, ce sujet de joie, ça vous a galvanisé, ça vous a permis de manifester, de produire une énergie nouvelle. Et c'est pour ça qu'on dit, pour dire de quelqu'un, par exemple, qu'il est transporté de joie. Hein, imagine, voilà. Mais il est une nouvelle qui nous remplit de joie d'une façon suprême. Et cette nouvelle, c'est celle du salut en Jésus-Christ. Alléluia. Hein. Et nous pouvons nous réjouir comme jamais lorsque nos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui va nous motiver dans tous les domaines de l'existence. Et cette joie-là, personne ne peut nous l'ôter. Est-il marqué ? Et il vaut la peine de bénir et de glorifier celui qui est à l'origine de cette bonne nouvelle du salut. Et combien nous serons aussi ainsi fortifiés et visités par lui-même dans notre corps. Amen. Et puis, j'avance un peu, mon cinquième point, c'est, nous parle de l'importance qu'il faut réaliser de l'âme et de l'esprit. Hein, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut le rappeler parce que notre monde, qui est un monde matérialiste, hein, qui ne veut pas reconnaître cette réalité-là, avec, hélas, toutes les conséquences indommageables et désastreuses que cela produit. Alors, une petite anecdote qui s'est produite il y a quelques années, dans le bureau de son notaire, à l'occasion de la vente d'un terrain, un cheminot retraité de 74 ans a appris qu'il était mort plusieurs années auparavant. Hein, donc, un employé de l'état civil l'avait confondu avec un autre, Hildebert. Hein. À la fin du mois de janvier, Hildebert Balesdan, domicilié à Rivry dans la Somme, a décidé de vendre des parcelles de terre. Le notaire lui a demandé un extrait d'acte de naissance à la mairie de Beauval qui a révélé que Hilbert Balesdan était décédé le 14 septembre, un petit peu auparavant. Heureusement, j'étais bien assis quand j'ai appris la nouvelle, raconté Hilbert Balesdan d'une voix alerte. Le notaire a bien voulu procéder à la vente parce qu'il me connaissait, ajoute-t-il. Alors, il a mené sa propre enquête, il a appris que l'employé de l'état civil de Beauval, son village natal, pardon, l'avait confondu avec un autre Hildebert, un voisin qui était décédé d'une chute de bicyclette à ce moment-là. Voilà. Mais voilà. Et puis ça nous parle aussi du témoignage d'une autre dame à laquelle était arrivé quelque chose de comparable. Et puis, la nouvelle de sa mort s'était répandue dans son village. Et puis là, elle, par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir le pasteur et elle a dit, mais qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais vraiment morte ? Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais vraiment morte ? D'autant plus qu'elle était inquiète parce qu'elle n'était pas prête à rencontrer Dieu. Et puis, bien sûr, elle a pu écouter avec l'attention qu'on devine la réponse qui lui a été faite. Elle a pu se tourner vers le Seigneur, elle a pu se convertir, elle a demandé pardon au Seigneur, elle a reçu la grâce de Dieu. Vous savez, le problème, hein, dans cette anecdote qu'on voit, c'est pas ce qui s'est passé pour cette femme-là, mais c'est qu'il y a tellement peu de gens qui réalisent l'importance de leur âme et de leur esprit. C'est qu'il y a tellement peu de gens qui réalisent l'importance de l'au-delà, l'importance du salut de leur propre âme. Malheureusement, il en est ainsi pour beaucoup. Mais dans le livre des Proverbes, nous voyons que l'âme et que l'esprit sont très liés à la santé physique et au fait d'avoir une vie longue et bénie. Ainsi, dans le chapitre 17, au verset 22, nous lisons « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Voyez, un bon médicament. Un esprit joyeux, c'est un bon médicament. Et le passage est clair. Et c'est pour ça que quand il est marqué, par exemple, « La joie du Seigneur sera votre force », il s'agit évidemment d'une force morale et intérieure, tout d'abord. Et puis, en même temps, c'est un moyen d'être fortifié aussi dans notre santé. Hein, on dit qu'un bon rire, ça vaut un beefsteak, hein, paraît-il, vous avez connu ça. Mais nous réalisons que c'est quelque chose de beaucoup plus vrai et de beaucoup plus profond lorsqu'on peut se réjouir dans le Seigneur. Amen. Pardon. Toujours dans le même sens, au chapitre 18, au verset 14 des Proverbes, il est marqué « L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera ?» L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Effectivement, il y a des témoignages de personnes qui, par leur résolution ferme, par, je dirais, leur forte volonté, ont puissamment été soutenues pour remporter le combat par rapport à certaines maladies graves. Hein. C'est vrai, ça existe. Mais vous savez que la meilleure volonté, le caractère le mieux trempé ont malgré tout leurs limites. Et un jour, eh bien, on va rencontrer quelque chose de trop grand pour soi, puis on va être abattu. Mais là encore, quelle différence lorsque se confie en Dieu, parce que, eh bien, on a des ressources qui dépassent largement les nôtres lorsque nous venons à lui. Hein, vous avez ce cantique qui dit « Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève, ce qu'il t'a plu de commencer, sans se lasser, ta main l'achève. » Amen. Ça, c'est le désir de Dieu et ça, c'est la volonté du Seigneur. Hein. Donc, c'est le témoignage qui est donné par William Booth, donc, qui était le fondateur de l'Armée du Salut. Et puis, donc, il racontait la chose suivante. Dans une réunion tenue il y a quelque temps dans le Yorkshire, un camarade parla longuement de ses difficultés sur la route qui mène au ciel. Un autre, de disposition bien différente, lui succéda et lui dit « Je vois que le frère qui parle demeure dans la rue du Murmure. J'y ai moi-même habité quelque temps, et jamais je ne me suis bien porté. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était malsaine, les oiseaux n'y chantaient jamais, et moi-même j'étais sombre et triste. Mais j'ai déménagé. Je suis allé habiter rue de la Reconnaissance, et depuis lors je me porte bien, ma famille aussi. » L'air y est pur, l'eau y est pure, la maison est saine et exposée au soleil, les oiseaux chantent et je suis heureux du matin au soir. Eh bien, si j'ai un conseil à donner à notre frère, c'est de déménager. Il y a beaucoup de maisons à louer dans la rue de la Reconnaissance. Et s'il veut y venir, je suis sûr qu'il y sera transformé et je serai moi-même très heureux de l'avoir comme voisin. Voilà. Vous savez, notre monde... Eh bien, nous donne bien des raisons d'avoir l'esprit inquiet, abattu, découragé, soupçonneux, désillusionné. C'est le grand courant dans lequel il veut toujours nous entraîner. Alors, pour aller à contre-courant, pour résister à cela, pour avoir la force de tenir dans la foi, l'attachement à la parole, eh bien, l'esprit de louange, l'esprit de reconnaissance, l'esprit d'action de grâce, c'est vraiment dans le Seigneur, c'est vraiment des moyens infaillible d'être puissamment fortifié, renouvelé et d'avoir un cœur content, ce qui est un festin perpétuel. Amen. C'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Hein. Même l'apôtre Paul disait, hein, du sein de sa prison, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, dans des circonstances vraiment compliquées, il disait « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Hein, on raconte l'histoire de ce roi qui entra un matin dans son jardin et trouva tout desséché et mourant. Voilà. Et il demanda au chêne qui se dressait près de la porte ce qui s'est passé. Et celui-ci a dit, ben écoutez, majesté, moi je suis là de vivre parce que je ne suis pas aussi grand et aussi élevé que le sapin qui est là-bas. Alors, le roi est allé voir le sapin et le sapin a dit, il était tout découragé parce qu'il ne portait pas de grappes comme la vigne. Puis quand il est allé voir la vigne, mais la vigne elle-même était prête à abandonner sa vie parce qu'elle n'était pas aussi haute et aussi parfumée que le lilas. Voilà. Il en était de même pour tout le jardin. Et puis à un moment, il s'approche d'un petit parterre, là, et puis il voit une plante, une petite fleur, une petite pensée qui a l'air contente. Il remarque sa face brillante qui s'élève, là, en contraste au milieu de tous les autres. Et puis il dit, eh bien, petite pensée, je suis heureux. Au milieu de tout ce découragement de trouver une brave petite fleur. Tu n'as pas l'air désolé. Tu n'as pas l'air le moins du monde désolé. Non, a-t-elle répondu. C'est vrai, je suis de peu d'importance. Mais je pense que si vous aviez désiré un chêne, un sapin, ou une vigne, ou un lilas, vous en auriez planté. Mais comme je vois que vous avez désiré un groupe de pensées à cet endroit, je suis heureuse d'être et je m'arrange pour être la meilleure petite pensée que je peux. Hein, voilà. Et ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien, ils ont toutes les raisons de se réjouir parce que le Seigneur est avec eux, le Seigneur les soutient et parce que le Seigneur veut les bénir et les accompagner dans toute la suite de leur existence. Amen. Amen. Et puis, j'avance encore un peu. J'en arrive à mon sixième point, l'importance de la crainte de Dieu. L'importance de la crainte de Dieu qui amène à rejeter le péché. Chapitre 3, versets 7 et 8, nous l'avons lu, notre passage de départ. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. » Et voilà décrites ici les trois étapes pour une vie en santé et une vie bénie. Ne pas être sage à ses propres yeux. Méfions-nous de nos propres raisonnements. de nos pensées, soumettons-les à Dieu, ne nous enorgueillissons pas, humilions-nous devant le Seigneur, détournons-nous de nous-mêmes, sachons reconnaître notre incapacité et ne prenons pas trop au sérieux. Hein, c'est quelqu'un qui a dit « Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. » Et c'est la vérité, hein, si on veut bien considérer les choses ainsi. Ensuite, deuxième chose, craindre l'Éternel. Et ça, rappelons-le, ça veut dire lui soumettre notre vie. Déjà, nous convertir pour obéir à sa parole en abandonnant cette tendance à en faire notre tête, hein, qui malheureusement nous a si souvent emmenés dans les problèmes, dans l'erreur, dans le péché, pour nous soumettre entièrement à sa volonté, la rechercher et véritablement vouloir accomplir sa parole avec son secours. Et puis se détourner du mal, c'est ce que l'Écriture appelle la sanctification, sans laquelle il n'y a pas de salut, hein, donc la séparation résolue de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, à l'heure actuelle, je prends le cas de l'Allemagne, mais je pourrais prendre le cas de la France, mais c'est cet article qui m'est tombé sous les yeux, vous avez 3 millions d'adultes, au moins, qui sont possédés du désir d'acheter coûte que coûte. Acheter, absolument acheter. Et c'est un professeur de Stuttgart sur la thérapie de la consommation, le docteur Sherborn, qui dit que ce n'est que le sommet de l'iceberg. 12 autres millions d'Allemands, à son avis, font preuve d'une telle propension à l'achat. Et le déclencheur de cette propension, c'est quoi ? Eh bien, c'est le vide intérieur. C'est des problèmes psychiques, un sentiment d'infériorité, bien que les frigos, les armoires soient pleins, les personnes concernées, qui en plus sont souvent criblées de dettes, eh bien, ils ne peuvent pas faire autrement qu'en guise de compensation d'acheter. Acheter des vêtements, des articles ménagers, des aliments, et Sherborne d'ajouter les intoxiqués. Ils appellent ça des intoxiqués, sont totalement dépendants. Ils doivent sans cesse augmenter leur dose d'achat. Et le renoncement provoque des phénomènes de manque, et ça s'accompagne d'une anxiété profonde et de symptômes grippaux. Hein, les hommes autant que les femmes, et ça concerne spécialement les 20 à 35 ans, avec toutes sortes de divorces qui en résultent, et toutes sortes d'autres mauvaises conséquences. Donc, et puis après, ils disent, voilà, le docteur Sherborn dit, seul un thérapeute ou une visite à un groupe d'entraide va pouvoir aider. Il paraît que tel groupe se multiplie dans les grandes villes. Mais ça me rappelle une chose, moi, c'est qu'une vie sans Jésus, c'est une vie qui est vide, vous savez. C'est une vie qui est entièrement vide, c'est comme une question qui est sans réponse, comme une soif qui n'est pas étanchée, comme une faim qui n'est pas assouvie, hein, donc, et ça mène à une vie sans lumière, sans orientation, et véritablement, c'est pour celui qui vit sans Jésus, mais écoutez, il ne peut rien gagner sur cette terre, et puis il perd tout pour l'éternité. Ça, c'est la réalité. Hein, c'est Blaise Pascal, donc, mathématicien, physicien, philosophe français, qui a décrit le vide d'un homme et sa solution. Il a dit, dans le cœur de tout homme, il y a un vide créé par Dieu. Il ne peut être rempli si ce n'est par Dieu lui-même, le Créateur, tel qu'il se révèle en Jésus-Christ. Et une vie avec Dieu, une vie avec Jésus, eh bien c'est pour ça que c'est la vraie vie. Et c'est pour ça que c'est la vie éternelle. Et je dirais que cette source de joie authentique, c'est la seule qui ne déçoit jamais. Et celui qui construit sa vie sur Jésus, il n'a plus rien à craindre, il n'a plus à désespérer. Pourquoi ? Parce que Jésus a payé notre dette, Jésus offre la paix avec Dieu, il nous donne une bonne espérance pour l'au-delà, il est le sens de la vie. C'est Augustin encore qui écrivait, « Ô Dieu, tu nous as créés pour toi-même et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils trouvent la tranquillité en toi. » et c'est vrai, hein. Le Seigneur a affirmé, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance, dans l'évangile de Jean chapitre 10 et au verset 10. Et puis nous en arrivons à l'importance, notre septième point, l'importance de la fidélité. Hein, on a déjà lu tout à l'heure chapitre 4 verset 20 à 22, sur lequel je ne reviens donc pas maintenant. Mais là, il nous a parlé de l'importance de garder la parole au fond de notre cœur, l'importance de la fidélité à Dieu. Lorsque quelqu'un s'approche du Seigneur, c'est vrai, j'aperçois qu'une personne qui s'approche de Dieu au départ, elle peut recevoir rapidement diverses grâces, diverses réponses de la part de Dieu, peut voir divers miracles de la part du Seigneur, mais j'aperçois quand même que les choses les plus durables, les choses les plus précieuses et les plus excellentes sont réservés aux fidèles, hein, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le Seigneur, avec cette récompense suprême, soit fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Maintenant, ici-bas, ce sont les fidèles qui ont les promesses de guérison, de maintien en prospérité de leur corps et de leur âme. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Je vais vous lire encore un dernier petit texte avant d'avancer un peu plus loin. Quelqu'un qui a, donc un Jalagui, un homme de Dieu, pasteur protestant du début du XXe siècle, qui a écrit la chose suivante. Il n'est pas de plus grande chose que ceci. Être fidèle dans les petites choses. Le grain de sable uni au grain de sable, c'est la dune pittoresque et meurtrière tout à la fois. La petite étoile unie à l'étoile, c'est le système solaire et ses milliards de feux. La vapeur légère unie à la parcelle humide et gazeuse, c'est le brouillard malsain qui arrête tout. L'étincelle pétillante mariée à la flammèche folâtre, c'est l'incendie dévorant ou le feu qui ranime. Une pensée ténue qui traverse le cerveau, unie à celles qui viennent, c'est l'enchaînement spirituel de toute la vie. Rien ne commence par le grand, mais tout commence par le petit. L'imperceptible est le pourvoyeur de l'infini. Le minuscule attire le géant. Tout est dans la goutte d'eau, la molécule, l'atome, la cellule microscopique. Il ne faut pas laisser passer dédaigneusement l'infiniment petit des minutes et des secondes. Pour une seconde, des horloges vibrent, des appareils énormes et compliqués s'ébranlent, des rapides monstrueux tourbillonnent. On ne peut pas faire du grandiose sans les éléments fournis par la petitesse. Être fidèle, c'est mettre son attention dans les petits devoirs, dans les détails minimes de l'existence. La difficulté est grande, et pourtant que de vies brisées par l'inobservance de cette condition de progrès. Combien j'en connais qui seraient des chrétiens utiles et conquérants s'ils n'étaient empêtrés dans une petite chose ? C'est bien peu, dira quelqu'un. Je réponds, personne ici ne tuerait ni ne volerait. Mais qui donc n'éprouve qu'il lui manque une chose pour être un croyant accompli? Il faut de l'héroïsme parfois pour être fidèle dans les détails. Ne pas accepter un seul mensonge. Refuser tout compromis de conscience. Arrêter sur ses lèvres une plaisanterie douteuse. Détacher son regard de tout spectacle qui défie la morale. C'est une œuvre aussi nécessaire que délicate. Pourtant, une seule touche mal rendue suffit pour gâter un tableau. Un insigne mouvement du bâton peut altérer la pureté de la source. Une pensée coupable compromet pour un temps les relations de l'âme croyante et de son sauveur. Que dis-je ? Il est tellement d'entraînement dans les petites choses qu'un léger manque de fidélité suffit à déterminer une chute, l'éloignement de toute une vie. Sois fidèle dans les petites choses, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Voilà, ça c'est primordial aussi, cette fidélité. Dans le chapitre 13, au verset 17, nous avons lu tout à l'heure qu'un message est fidèle apporte la guérison. Et le principal caractère de ceux qui sont chargés d'enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la connaissance. Le principal caractère, c'est la fidélité. Quand il est marqué, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Ce que tu as vu et entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » La fidélité passe avant la capacité, même si la capacité a toute sa place. Évidemment, bien sûr. Donc voilà, c'est dans les dernières instructions qu'il lui transmet cela et que le Seigneur nous donne miséricorde pour être fidèles également. Alléluia. Chapitre 25, verset 13. « Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. » Et ça, c'est un passage magnifique parce que celui qui nous envoie, c'est le Seigneur. C'est lui le maître des messagers. Et en particulier de ceux qui sont fidèles. Et il nous est dit ainsi qu'un messager fidèle, eh bien, il peut faire du bien à Dieu. Vous rendez-vous compte ? Donc, un messager fidèle restaure l'âme de son maître, est-il dit. Et nous pouvons être agréables au Seigneur lorsque nous sommes des messagers fidèles. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur dira à ceux auxquels il va adresser cette appréciation. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Que nous puissions donc nous attacher de tout cœur à celui qui a fait la promesse et qui est fidèle. Il est fidèle et il ne peut se renier lui-même. Amen. Alors rappelez-vous, frères et sœurs, en conclusion, que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. C'est son désir habituel et régulier. C'est de notre attitude aussi que dépend le rallongement de notre vie, le fait d'avoir une vie heureuse et bénie. Rappelez-vous en troisième l'importance d'une bonne attitude dans la réception de la parole de Dieu. Donc l'écouter, bien la lire et la serrer dans notre cœur. Et puis, rappelons-nous également quelles bénédictions viendront en cascade sur la vie de ceux qui ont à cœur d'annoncer le message de l'Évangile. Et puis, rappelons-nous enfin combien la santé de l'âme et de l'esprit, c'est quelque chose qui est lié à celle du corps, et qu'une sainte crainte de Dieu soit aussi là pour nous garder en santé et sous la bonne main de Dieu, avec cette fidélité qui l'accompagne, qui sera aussi une garantie, un moyen merveilleux d'expérimenter cette fidélité divine. Merci le Seigneur. Amen. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour le secours que tu nous accordes. Te remercions pour la bonne œuvre que tu fais encore, Seigneur. Et merci, mon Dieu, parce que maintenant encore, nous pouvons nous confier en toi et nous attendre à ton action puissante et bénissante. Merci, parce que tu agis ainsi pour tes enfants et pour ton peuple. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons quelques annonces. Je vous rappelle que nous avons toujours les questions-réponses bibliques pour ceux qui en ont. C'est le mercredi à 19h15. La réunion de prière, c'est à la suite, le mercredi à 20h15. Je vous rappelle que nous avons repris la réunion du vendredi soir à 20h15 avec des témoignages et aussi des requêtes de prière. Et puis, nous avons l'évangélisation dans les villages. Samedi, rendez-vous à 14h30. Nous envisageons la reprise de l'école du mercredi pour les enfants de l'âge collège. Donc ça doit être normalement, Dieu voulant, le mercredi 22 septembre. Hein. Voilà, donc à 14h. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous soutienne et vous fortifie encore.